Bonjour et bienvenue dans cet audio qui va parler du thème numéro 2 de ce mois de janvier et qui concerne donc les cycles et les différents besoins. Alors pour commencer, on peut se demander ce que c'est qu'un cycle et par définition, j'ai trouvé que le plus simple était de parler d'un passage de différentes phases qui se fait dans un ordre précis et qui se renouvelle sans cesse. De là, on comprend qu'il s'agit d'une notion vraiment profondément féminine. D'une part parce que, en tant que femme, nous évoluons nous aussi selon une succession de phases hormonales durant chaque mois, mais aussi par opposition avec le système de pensée masculin qui prédomine en ce moment dans les systèmes religieux des patriarcales, hein, des pères, etc., du dieu unique masculin. Nous avons affaire à une sorte de vision en ligne, c'est-à-dire que nous partons d'un point A qui symbolise notre naissance et nous filons tout droit jusqu'au point B qui est notre mort. Et ensuite, plus rien. Ou alors, à la limite, selon nos croyances, il y a soit le paradis, soit l'enfer. Et j'ai récemment découvert en plus, par exemple, que chez les témoins de Jéhovah, le paradis a même carrément un quota de places, et que d'ailleurs, en fait, toutes les places seraient déjà prises, donc c'est foutu pour nous, en gros c'est A, B, et puis voilà, selon certaines croyances, c'est même direct l'enfer, et puis voilà. Ça fait plaisir. D'un autre côté, en fait, le féminin est bien plus changeant, rythmé, évanescent, c'est un petit peu, en fait, comme la terre-mère qui est une expression féminine de la création hein, et qui vit de façon très cyclique avec la succession des saisons. C'est pour ça qu'on fait énormément ce lien entre les deux. Mais à y regarder de plus près, on se rend compte que c'est pas un cercle des saisons où l'on retourne à notre point de départ. D'hiver en hiver, on se rend bien compte qu'une branche a poussé plus à gauche ou à droite, que l'arbre a pris de la hauteur. Il suit les saisons, ça c'est vrai. Les mêmes saisons, c'est vrai. Le même cycle, oui. Il va perdre ses feuilles tous les automnes, mais tous les ans, on peut voir qu'il continue à évoluer. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, hein, si on doit, comme pour le thème 1, regarder un petit peu la nature et comprendre les sagesses qu'elle nous enseigne, hein, simplement par analogie, ben, on comprend qu'on n'est pas finalement en face d'un espèce de cycle fermé comme ça, d'un cercle, mais plutôt en face d'une spirale, comme on le retrouve fréquemment dans le développement personnel, etc., d'une spirale où on ne repasse pas tout à fait par les mêmes choses dans notre vie. Dans nos mois de femmes, les mois ne sont pas tous équivalents les uns les autres. Et même s'ils sont différents par rapport aux saisons, etc., le mois de janvier 2019 n'est pas le même que le mois de janvier 2020, etc., etc. D'année en année, qu'est-ce qui va changer? Il y a énormément de choses qui vont changer. C'est notre compréhension. On comprend les choses différemment, peut-être mieux. Et en tout cas, différemment. Comme par exemple la compréhension qu'on peut avoir de la chute des feuilles. Depuis qu'on est petit, depuis l'école, hein, on apprend que la perte des feuilles, c'est un sacrifice absolument nécessaire pour l'arbre afin de garantir sa survie, tout simplement. Et puis progressivement, on peut aller plus en profondeur, toujours par analogie, en regardant le processus hein, d'un point de vue biochimique, ou émotionnel, ou symbolique. Hein. Les feuilles deviennent jaunes, elles tombent, et puis, je pense que vous avez déjà toutes eu l'occasion de vous balader en forêt à ce moment précis, hein. Le sol en forêt est entièrement jaune. La forêt est éclatante, très lumineuse, et on peut même avoir l'impression comme ça de marcher sur le soleil, ou d'être, alors là c'est vraiment si on part en imagination, on a l'impression peut-être d'être même les témoins de la Terre qui rendraient hommage au Soleil en disant quelque chose comme ah, tu nous as éclairé de tous tes rayons pendant tout l'été et je t'en remercie. C'est dans ce cas-là, on serait un petit peu devant un hommage par déguisement, comme on peut le voir dans les tribus qu'on dit primitives, par exemple des danseurs qui se parent de plumes quand il y a des aigles qui arrivent sur leur territoire, etc., ou lors des migrations. Et nous, dans notre civilisation, on a vraiment perdu cette faculté de nous transformer pour célébrer. Il y a encore un petit peu Halloween, il y a encore un petit peu en février le carnaval, qui fonctionne vraiment très très bien dans certains pays, et d'autres qui passent totalement inaperçus. Et le fait de se transformer comme ça pour nous mettre à la place d'un autre être, pour voir par ses yeux, c'est justement ce dont on a parlé dans le thème 1. Et c'est un petit peu dommage parce que justement c'est un lien qui se perd tout simplement, un lien qu'on a avec la nature qui se perd et qui se perd vraiment à l'âge adulte parce que finalement il suffit de regarder nos enfants qui savent encore se mettre à quatre pattes et dès qu'ils sont à quatre pattes, paf, ce sont des chevaux, des vrais. Ils hennissent, ils se cabrent, ils portent les frères et sœurs sur leur dos, etc. Ce sont vraiment des chevaux. Et en faisant tout simplement cela, en se demandant comment agirait un cheval, etc., il y a un lien qui se crée tout simplement avec le cheval, mais aussi globalement avec la nature. En prenant cette espèce de distance, en grandissant donc avec la nature, on perd forcément aussi le contact avec le symbole du cycle. En tant que femme, je peux vraiment dire que c'est particulièrement grave, car on va essayer de briller, de vivre dans notre plus grand potentiel, ou au moins de nous en sortir tant bien que mal dans notre vie, en faisant tout pour nous aussi être une constante, une ligne de A à B. Mais nos hormones fluctuent, tout comme nos humeurs fluctuent, nos ressentis, nos capacités selon les mois. Et c'est une vraie bataille que de vouloir simplement être une constante. C'est impossible, on se heurte à des difficultés inimaginables, du désespoir, on se heurte à un mur en essayant de devenir cette constante. En prenant le temps de voir la nature et ses cycles, nous apprenons tout simplement que la féminité est cyclique et que nous ne pouvons pas fausser cette nature, nous ne pouvons pas aller contre elle. Dans le conte, eh bien, il y a un rappel sur le pourquoi de l'instauration de ces cycles sur Terre. Et on nous dit que c'est pour répondre à tous les besoins de tous les êtres vivants. Par extension, par analogie, on peut en déduire que les cycles féminins ont été forcément instaurés pour répondre à tous les besoins de la femme. Depuis ses besoins de créativité, de maternité, jusqu'à ses besoins de sens, de recherche de sens, ou de contact social, de séduction. Et puis, les croyances de la grande-mère se fondent aussi sur cette spirale rythmée, contrairement à la ligne AB, vie-mort, la féminité symbolisée par la vie, la mort et la renaissance. C'est ce qu'on appelle vie-mort-vie, hein. Comme le dit si bien Clara Pinkola Estes, hein, dans son livre culte, Les femmes qui courent avec les loups. C'est de là que nous vient la tradition des cercueils en bois. Hein. Je ne sais pas si vous savez, mais le bois, c'est le tronc et c'est le symbole en fait du giron féminin. Et en déposant les corps dans des troncs, puisque au début les cercueils étaient vraiment des troncs creusés, on déposait symboliquement les corps dans les girons et c'était comme une promesse de renaissance dans l'arbre matrice. Alors avant, je vous parlais de spirale et oui, comme une spirale. Dans les croyances, en tout cas plus maternelles, nous vivons des vies successives et nous évoluons toujours davantage, selon donc des croyances différentes. Le cycle des renaissances, c'est donc, on pourrait dire, véritablement quelque chose de très féminin, qui est basé sur l'observation des cycles de la nature. On peut choisir d'y croire ou non, peu importe, hein, pour notre travail spirituel d'ailleurs, parce que du coup on va de toute façon se focaliser sur notre vie actuelle, sur celle-là. Mais l'important ici, c'est bien de savoir que c'est l'essence féminine qui s'ouvre par ses qualités émotionnelles sur ce que vivent les autres espèces, donc de se mettre à la place d'une autre espèce, qui permet de nous mettre à l'écoute des vrais besoins de tous, mais aussi de la Terre. Et cette mise à l'écoute nous permet de dépasser l'univers de l'ego, de notre ego, et de cet ego qui est partagé par toute l'humanité, du toujours plus, plus vite, plus fort, en tout cas l'humanité occidentale. Cette espèce de promesse, la promesse qui est véhiculée par cette reprise de contact avec les êtres vivants, avec les cycles et les besoins de tous, hein, donc vraiment de tous, sans une espèce primant sur une autre, ou une personne primant sur d'autres, supérieure à d'autres. La promesse de cette reprise de contact, c'est la reliance avec notre féminité. Le retour à la nature, c'est vraiment d'une première importance, et c'est pour cela que le cercle des 13 lunes commence par cette étape. C'est vraiment pour cela qu'on commence par cela dans l'enseignement donc des grandes mères amérindiennes, parce que on est vraiment dans quelque chose de grande importance. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir et ensuite on ne fait rien d'autre tous les mois, c'est vraiment reprendre ce contact, se mettre à la place des autres, regarder leurs besoins et trouver par analogie ce qu'on peut comprendre pour notre évolution à nous. Nature et cycle, nature et rythme. Il est temps pour nous les femmes de renouer avec ce savoir si simple, mais si puissant à la fois. Et peut-être même qu'il est temps aussi de regarder en quoi le cycle des saisons correspond à notre cycle, à nous, bien que ça paraisse totalement évident, encore faut-il s'arrêter quelques secondes et se poser les questions comme quel est mon hiver, quel est notre hiver, à quel besoin correspond-il? Si j'en ai un dans mon cycle, c'est qu'il correspond à un besoin. Lequel est-ce? Et puis, est-ce que je peux honorer ce besoin aujourd'hui, si j'en ai besoin aujourd'hui? Ou est-ce que je peux tenter d'aménager un petit peu différemment ma vie pour prendre en compte ce besoin, un petit peu plus qu'hier? En vivant depuis des centaines d'années de façon comme ça très linéaire, nos ancêtres ne nous ont peut-être pas appris que nos besoins de femmes évoluaient dans le mois, et puis dans les années qui se succèdent, hein, on n'oublie pas qu'on est sur une spirale. Et il y a peut-être même des besoins qu'on ne sait même pas que nous avons. Par exemple, j'ai appris vraiment en faisant le travail sur une autre de mes classes, la porte noire, hein, qui travaille vraiment sur le moment de notre hiver, etc. Et j'ai compris qu'en fait, à ce moment-là, il y avait un véritable besoin de créer. Donc par rapport à ce que des personnes assez cultes comme Miranda Gray, etc., nous disent qu'il y a une période de créativité, en fait, j'ai découvert que cette période de créativité ne correspondait pas à la période de Miranda Gray, bien qu'il y avait vraiment une recherche aussi à ce niveau-là de vouloir sortir quelque chose, mais plutôt au moment du saignement, de transmettre quelque chose, c'est-à-dire de me mettre dans un état réceptif et de sortir quelque chose, qui n'est pas forcément après pour tout le monde, c'est pas quelque chose d'abouti, par là que je veux le comprendre, ce n'est pas quelque chose de final qui peut être montré, mais c'est quelque chose qui vient, dans lequel on peut être à l'écoute, et c'est comme une espèce de brouillon qui va être travaillé et peut-être sortir en phase créative Miranda Gray, peut-être, mais que pour pouvoir être de bons récepteurs, il faut quand même en garder une trace. Et ça peut être alors là de multiples façons, des enregistrements, des écrire, dessiner, composer. Mais en tout cas, voilà, pour être ce besoin divers correspond pour moi à un moment donné où je m'arrête et je me mets en mode réception. C'est très facile à ce moment-là et j'ai rien à faire, juste ne pas lutter. Et puis, effectivement, transmettre et puis intégrer dans la matière. C'est quelque chose que j'ai découvert parce que pour moi, j'avais cette période créative Miranda Gray qui était un autre moment et du coup, je m'abstenais finalement, tout bêtement, de créer à ce moment-là alors que j'en avais besoin. Alors, je vous invite forcément également par cet audio de rechercher à chaque phase, déjà de trouver ces phases, hein, elles ne sont pas si compliquées, mais c'est peu pareil, c'est quelque chose qu'il faut faire, on s'arrête, on prend le temps. Et non seulement donc de trouver ces phases, mais aussi de comprendre quel est le besoin qui est derrière, votre besoin personnel, parce que là aussi, il n'y a pas forcément de généralité, on est peut-être différente que toutes les autres. Pas grand-chose, une petite différence, mais voilà. Alors par exemple, si tout d'un coup vous avez un... Si vous êtes en vous-même en lune montante, c'est-à-dire entre vos saignements et l'ovulation, la période d'ovulation, que tout d'un coup vous avez un besoin faramineux cette semaine-là de jardiner, eh bien, à quoi ça correspond? Pourquoi ce besoin est là? Pourquoi je n'y réponds pas? Qu'est-ce qui se passerait si j'y répondais? Comment je me sentirais? Donc progressivement, comme ça, essayez de voir aussi que nos cycles et les cycles en général, est bien quelque chose qui est utilisé pour exprimer tous les besoins d'une personne. Donc est-ce qu'en tant que femme, on a plus de besoins que les hommes? Voilà. Apparemment. En tout cas, s'intéresser à la nature et puis aux êtres vivants, c'est finalement s'intéresser à soi-même. Pas dans le sens égotique qu'on l'a vu avant. C'est vraiment plutôt une recherche de curiosité. C'est pas rechercher une supériorité, mais c'est simplement observer, regarder et respecter. D'ailleurs, respecter la Terre commence par cette étape importante qui est le respect de soi-même, forcément le respect de ses besoins à soi. Je le redis parce que c'est très important, respecter la Terre commence par cette étape importante qu'est le respect de ses besoins à soi. Finalement, il ne sert à rien de vouloir sauver toute l'humanité, toute la planète Terre, si on ne sait pas sauver soi-même avant. C'est un petit peu comme en ce qui concerne les consignes en avion, vous savez peut-être. Avec les masques à oxygène. Alors, on nous dit bien d'avant de vouloir mettre le masque à oxygène à son enfant, de se le mettre d'abord à soi-même. Et puis, il y a toujours ce moment où je lis les consignes, je prends très 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 peu l'avion. Donc, c'est à chaque fois une découverte, hein. Je suis pas blasée du tout, j'en ai même peur. Donc, on va dire que dans toute ma vie, je l'ai pris deux ou trois fois. Et puis à chaque fois, je me dis, mais c'est tellement dur pour une mère, rien que d'y penser. Parce qu'intestin, de façon très instinctive, ce n'est pas du tout ce qu'on ferait. C'est-à-dire que personnellement, moi je m'occuperais d'abord de mon enfant et après je me mets le masque. Ça, ce serait vraiment, voilà, primitivement ce que je ferais. Et il faut vraiment que je m'éduque moi-même et que je me dise, oui, finalement, c'est pas bête, parce que si moi je suis privée d'oxygène, comment je vais bien pouvoir lui mettre? Ça veut aussi dire que finalement, la nature s'occupe très bien d'elle-même. Et ça, pour vivre vraiment dans une région un petit peu reculée, un petit peu coupée de tout. Que c'est une réalité, elle fait ça très bien, tant que l'humain n'entre pas dans l'équation. Par exemple, donc ici, moi je suis dans les forêts vosgiennes, on a un problème de surpopulation de cervidés. Alors le souci, c'est que trop de ces animaux mangent trop de jeunes pousses d'arbres, hein, et que du coup la forêt n'arrive pas à se régénérer comme il faudrait. Et pour cela, l'ONF, donc l'Organisation nationale des forêts, engage quoi? Eh bien des chasseurs. Et puis, tout bêtement, on se demande, mais attends, quel était le prédateur naturel des cervidés ici? Bien, c'était les lynx, c'était les loups. Lynx et loups qui ont été éliminés par qui? Par l'intervention humaine. Et tout l'équilibre en a été bouleversé jusqu'à avoir déstabilisé la pérennité des forêts, des plantes. Et je me demande souvent, mais qui s'est mis une seconde à la place du loup ou à la place du cervidé avant d'ordonner l'extinction des loups et l'extinction des lynx, par exemple, qui aurait pu tout simplement saisir cette espèce de grand cycle alimentaire des espèces et les conséquences qu'il y aurait pu avoir en cas de suppression d'un seul de ces maillons? Et puis, ben, la réponse, voilà, elle est telle qu'elle est, c'est l'humain, c'est l'homme, à la pensée donc linéaire, A, B, et qui ne pouvait avoir qu'une vue à courte échelle. Si on pense linéaire avec une fin, on voit forcément à une distance très très courte, on ne voit pas plus loin que le bout de son nez, tout simplement. Le loup mange trop de moutons, et trop, c'est même un, c'est trop, hein, dans le monde des affaires. Donc le loup mange trop de moutons, que faire? Eh bien voilà, solution simple et efficace, c'est de tuer le loup. Comme la solution simple dans la vie courante est d'employer des hommes, par exemple, qui sont des ressources d'ordre constante, hein, pour les entreprises, donc là, c'est vraiment homme masculin. Donc cette fois-ci, je passe du coq à l'âne, je parle de toutes les entreprises, etc., qui vont préférer des mecs, tout simplement des hommes plutôt que des femmes, parce que du coup ils sont sûrs qu'ils peuvent être constants en fait au niveau des besoins. Et forcément, si on a le choix, c'est les hommes qui vont être préférés pour un même emploi. C'est quelque chose d'actualité puisque nous sommes obligés de créer des lois pour avoir un équilibre homme-femme. Donc si on oblige quelqu'un à le faire, ça veut dire que la personne ne le ferait pas forcément, même si ça change un petit peu. Voilà, moi je sais que même les femmes à des postes haut gradés vont préférer employer des hommes. Voilà. Donc si on en est là, comment nous, de façon individuel, à notre niveau, à nous, comment peut-on vivre nos cycles dans le monde actuel? Je n'ai bien sûr aucune réponse évidente, malheureusement, car tant que le monde ne peut pas voir la richesse des différentes facettes des individus et des femmes, on ne pourra pas vivre, nous, pleinement ces différentes facettes. Finalement, à y réfléchir, on peut se dire que le monde dans lequel nous vivons est comme à la recherche d'un éternel été. Que l'hiver, pour lui, est un espèce de fardeau, et que voilà, hein, pourquoi pas le supprimer, hein, n'est-ce pas? Après tout, l'hiver, franchement, les gens qui travaillent au ralenti, qui sont malades, voire même déprimés, et puis pourtant, personne n'aurait encore l'idée de supprimer l'hiver. Parce que l'hiver reste encore un besoin pour tout le monde, pour le monde entier, pour la terre, pour recharger les nappes phréatiques en eau, par exemple, tout bêtement, hein. Et du coup, l'hiver de la femme est lui aussi absolument indispensable, alors qu'on recherche à lui faire croire que non, à l'enlever. C'est comme si on nous empêchait, voilà, de tout simplement de recharger nos nappes phréatiques à nous, de nous recharger. Et quand je le dis, c'est vraiment une réalité, puisque chimiquement, notamment avec l'usage de la pilule, Parce que, bien entendu, la pilule est quelque chose, est un médicament absolument extraordinaire lorsque l'on fait tout pour ne pas tomber enceinte. Voilà. Mais il faut savoir que c'est également un médicament qui est donné un petit peu trop vite à mon goût. Ça dépend des médecins. Je suis tombée peut-être sur des médecins particuliers. Mais systématiquement, quand je parle de certaines de mes douleurs ou des petits soucis que je peux avoir au niveau des mois, c'est la solution. C'est, eh ben, tu sais quoi, on va carrément supprimer le fait qu'il y ait des cycles par l'usage de la pilule, c'est la solution, voilà ce qu'on me dit. Et puis de toute façon, comme ça, vous serez plus performante aussi. N'importe quel moment du mois, on devient des hommes. Et bien entendu, ce n'est pas une bonne idée, exactement comme dans le cas de la chasse des loups, au final, quelles seront les conséquences de toutes ces femmes qui sont chimiquement coupées de leurs besoins, ou même juste coupées psychologiquement par le fait que depuis l'enfance, les besoins des femmes n'est plus respectés. Ça revient, bien entendu, et c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Et comme vous pouvez le voir, c'est un vaste sujet de discussion et je serais vraiment ravie d'échanger avec vous sur ce sujet, hein, sur notre groupe. Pour le moment, c'est Facebook. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi de quoi parler de ce sujet, d'être sur Facebook. En tout cas, comme vous pouvez le voir, c'est un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Donc, pas Facebook. Mais le fait de transformer les femmes, de les couper de leurs besoins, pas forcément dans le but de le faire, hein, on n'est pas là en train de se dire qu'on est manipulé à tout bout de champ, mais que finalement c'est pas plus mal. On se rend compte que finalement, oui, voilà, c'est pas plus mal. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, je serais ravie, ravie, ravie d'échanger avec vous à ce sujet, de m'en dire ce que vous en pensez. Vous pouvez être tout à fait contre ce que je dis, bien entendu. Et justement, ça permettrait d'aller plus loin dans notre échange. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, je vous dis à très vite, à très bientôt pour la suite des énergies de ce mois. Merci beaucoup d'être avec moi, de m'avoir choisi comme guide. Et puis, on continue sur la notion de rythme et de besoin avec quelques petits exercices. Merci beaucoup et au revoir!